Bonjour, un jeune homme retrouvé mort au bord de la Nationale 94 à Val-des-Prés. Il s'agirait probablement d'un migrant de 28 ans, originaire du Togo, qui aurait effectué un séjour en Italie. Une autopsie va être menée. La rencontre se sera déroulée, mais pour autant, il n'y aura pas eu d'annonce. Les enseignants et parents d'élèves de l'école La Ponsonne à Manosque se sont rendus devant le Conseil départemental de l'éducation nationale à Digne-les-Bains hier. Un CDEN où étaient également présents les syndicats qui ont décidé de quitter la table. Joël Giraud retire la Stella d'Italia, une insigne qu'il avait reçue du gouvernement italien en 2012, plus haute décoration faite aux non-ressortissants transalpins. Mais suite aux prises de position de Matteo Salvini et Luigi Di Maio, le député haut-alpin dénonce des ingérences. Digne-les-Bains se désendette mais poursuit ses projets d'investissement. Le budget était débattu hier soir dans les rangs municipaux, une mairie qui devra emprunter près de 2 500 000 euros pour financer ses projets. Et donc tout d'abord, à la une de l'actualité, une enquête ouverte après qu'un jeune homme, un jeune migrant, ait été retrouvé décédé. Cet homme de 28 ans, originaire du Togo en Afrique de l'Ouest, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi au bord de la Nationale 94 près de Val-des-Prés. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait effectué un séjour en Italie avant de passer la frontière française. Quentin Pérez de Tudela.
Oui, ce jeune homme était avec une dizaine de personnes, probablement des migrants, c'est en tout cas ce qu'indiquait hier soir le procureur de Gap. Tous seraient partis à pied de Claviere en Italie pour passer la frontière de nuit, mais ils se trouvaient en grande difficulté au point que la police aux frontières en avait été alertée. Il est 2h du matin passé, donc quand les hommes de la PAF reçoivent le signalement, ils se mettent alors à la recherche du groupe et c'est en chemin qu'ils tombent sur la victime. Il est alors 3h. À leur arrivée, les forces de l'ordre découvrent un jeune homme inconscient près duquel un chauffeur italien s'est arrêté et tente de lui porter secours. Les pompiers sont donc sollicités, mais il est trop tard. La victime transportée à l'hôpital de Briançon ne peut être réanimée. Son décès est constaté vers 4h du matin. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un Togolais de 28 ans qui avait séjourné en Italie. Une autopsie du corps est prévue mardi prochain à l'Institut médico-légal de Grenoble. Pour en savoir plus sur les circonstances exactes de ce décès, la brigade de recherche de Briançon a donc été chargée de l'enquête ouverte par le parquet de Gap. Enquête pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril.
Merci Quentin. Retour à la normale hier soir sur l'A51, mais aussi sur les réseaux de téléphonie et d'internet dans les Alpes-de-Haute-Provence. À la suite d'un acte de malveillance dans la nuit de mercredi à jeudi, des câbles de fibre optique ont été sectionnés, impactant directement la sécurité et la communication sur l'autoroute. Conséquence, la portion entre Sisteron et la Saulce a été fermée pendant plusieurs heures, le temps d'effectuer les réparations. Ce sont aussi 6000 abonnés téléphoniques qui ont été impactés par des dysfonctionnements sur leurs lignes fixes et Internet, notamment autour de Manosque. Tous les opérateurs de télécommunications ont été touchés. C'est à partir de 17h que le réseau a été rétabli. Les syndicats quittent la table du Conseil de l'éducation nationale dans les Alpes-de-Haute-Provence. FSU, Sud-Éduc, UNSA, SGEN, CFDT, FNEC, FPFO, CGT et FCPE ont décidé d'un commun accord hier de ne pas poursuivre les discussions dans le cadre de ce Conseil. Les organisations jugent les réponses préfectorales inconsistantes face à ce qu'elles estiment être des atteintes aux libertés citoyennes. En ligne de mire, notamment la loi anti-casseurs et la loi Blanquer. Et puis eux, ils se disent écoutés et estiment avoir été reçus. Pour autant, ils n'ont pas obtenu d'avancée dans leurs demandes. C'était la grève hier au sein de l'école La Ponsonne à Manosque. Une délégation de parents et d'enseignants avait fait le déplacement jusqu'à Digne-les-Bains où se tenait le Conseil de l'éducation nationale. Ce qu'ils réclament, ce sont plus de moyens humains et matériels dans cet établissement classé REP, Réseau d'éducation prioritaire, où les classes sont surchargées, où les salles sont surpeuplées. L'école est en échec, selon Stéphane Boutor, co-secrétaire du syndicat SNUIPP 04.
Ils peuvent faire leur boulot, mais ils le feront forcément de façon moins efficace, parce qu'il y aura des enfants pour qui ce sera beaucoup plus difficile de les faire rentrer dans les apprentissages. Quand vous êtes en éducation prioritaire, ça ne s'est pas fait au hasard. C'est qu'on a défini ces zones comme étant de l'éducation prioritaire pour leur donner des moyens supplémentaires pour qu'ils puissent apprendre comme les autres. Or là, quand vous vous retrouvez dans des classes à 26, 27, eh bien vous vous retrouvez dans les mêmes conditions que les zones qui ne sont pas d'éducation prioritaire. À force de travail, ils essaient, nos collègues enseignants, mais malheureusement, n'arrivent pas forcément à atteindre leurs objectifs. Et puis vous savez, comme dans n'importe quelle corporation, les travailleurs aiment bien quand ils font un travail bien fait. Or là, le constat est de voir que l'école est en échec.
À l'issue des échanges, aucune promesse n'a été formulée par le Conseil, selon Éric Condominas, représentant des parents d'élèves. Je vous le disais dans les titres politiques, Joël Giraud enlève la Stella d'Italia. Le député des Hautes-Alpes avait été décoré commandeur de cette Stella, l'ordre le plus élevé de reconnaissance de nos voisins aux non-ressortissants transalpins. C'était en 2012. Mais aujourd'hui, il décide de ne plus la porter tant que le gouvernement actuel en Italie sera au pouvoir. Décision réaction après les propos tenus par Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur italien, à de multiples reprises contre la France et Emmanuel Macron, mais aussi après la rencontre entre Luigi Di Maio, vice-président du Conseil, avec les Gilets jaunes. Une ingérence surréaliste dans les affaires intérieures françaises, estime Joël Giraud. Politique toujours, le fauteuil de responsable des Jeunes Républicains, désormais occupé dans les Alpes-de-Haute-Provence par Pierre Catillon. Ce Dinois de 25 ans, éducateur, succède à Sandra Rapponi, appelée au poste de déléguée de circonscription et membre du Bureau national des jeunes. Les chiffres sur le surendettement dans les Alpes-de-Haute-Provence sont encourageants. Une fois de plus, le nombre de dossiers traités par la Banque de France a diminué l'année dernière. Pour chaque situation, l'objectif est de trouver une solution pérenne. Tout est fait pour que les personnes surendettées ne déposent pas plusieurs dossiers successifs. En moyenne, les sommes à rembourser s'élèvent à 35 000 euros. Si 70% des cas concernent un crédit bancaire, une part non négligeable de ces situations résulte aussi du défaut de paiement d'un loyer, d'un impôt ou d'une caution. Philippe Kiel, président départemental de la Banque de France, se réjouit de la baisse du nombre de dossiers traités et détaille le profil des personnes surendettées.
Au niveau des dépôts de dossiers donc dans les Alpes-de-Haute-Provence, il y a un recul pour la cinquième année consécutive. Nous avons eu 430 demandes en 2018 et un recul donc de 28% sur 5 ans. En parallèle, on a traité plus rapidement les dossiers de surendettement puisqu'on en a traité pas loin de 500. On a aidé 500 ménages à renégocier les dettes, notamment grâce aux nouvelles lois Sapin 2 et Justice du 21e siècle. Au niveau du profil des surendettés, on est toujours sur des profils avec 70% de personnes seules, 70% de personnes sans activité professionnelle, 50% de personnes qui n'ont aucune capacité de remboursement et 80% qui ont un patrimoine vraiment petit, inférieur à 2000 euros. L'essentiel des motifs des surendettements sont toujours les mêmes, à savoir les accidents de la vie, comme la séparation, la maladie, le veuvage ou le chômage.
Des propos recueillis par Elena Saracani. Par ailleurs, la Banque de France entend également mettre l'accent sur la prévention avec des cours d'éducation financière. Retrouvez toutes les informations de ce dispositif sur alpe1.com. Emprunter, qui n'est pas toujours signe de précarité financière, à Digne-les-Bains par exemple, on compte sur l'emprunt pour accélérer les projets. Alors que les élus du conseil municipal se réunissaient hier soir, il était temps de faire les comptes pour l'année 2019. La priorité est donnée au désendettement de la commune. La capitale basalpine a déjà fait des efforts en la matière, puisque depuis 2014, la dette a baissé de près de 10 millions d'euros. Par ailleurs, la ville veut investir dans le réaménagement de certaines places, comme la place des Récollets ou encore le parking de l'usine à gaz. Ajoutez à cela le déploiement de l'application de réalité augmentée au niveau de la crypte de Notre-Dame-du-Bourg. Mais tout cela a un coût. La municipalité devra emprunter près de 2 500 000 euros pour financer ses projets. Bruno Villaron, premier adjoint délégué aux finances, affirme que la commune fait des efforts pour stabiliser ses frais de fonctionnement.
Beaucoup de personnes connaissent la situation financière de la ville de Digne avec une annuité d'emprunt très élevée et donc qui s'est rajoutée aux baisses de dotation de l'État, hein, puisque maintenant nous avons perdu par rapport à l'année de référence 2013 1,5 million par année, donc il nous a fallu faire des efforts. Alors les efforts ils se sont cantonnés sur les dépenses de fonctionnement à caractère général, c'est-à-dire les dépenses courantes, l'eau, l'électricité et des choses comme ça, où depuis 2014 à 2018 nous avons économisé 1 million. Nous avons travaillé avec sur la masse salariale et donc les dépenses de personnel, puisqu'il faut quand même constater qu'entre 2014 et 2018, hors effet de transfert de compétences à la communauté d'agglomération, l'effectif de la ville de Digne a baissé de 26 ETP. L'annuité de la dette va progressivement se réduire et donc donnera des capacités supplémentaires d'investissement pour le futur.
Un dossier réalisé par Michel Bonnefoy, la réhabilitation du parking souterrain et la rénovation de la seconde partie de la place du Général de Gaulle font partie d'un budget annexe. Depuis l'élection de Patricia Granet, la municipalité a augmenté ses investissements de 32 millions d'euros. Les Hautes-Alpes préparativement leurs valises, direction la plus grande ferme de France. Ce sera du 23 février au 3 mars prochain, le Salon international de l'agriculture à Paris. Et cela fait la sixième année que le département se représente dans les allées de cette grand-messe agricole. Ses représentants seront sur le stand de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Et d'année en année, la délégation alpine est de plus en plus nombreuse, comme l'explique Yvan Chex, le directeur de l'Agence de développement des Hautes-Alpes.
Nous aurons cette année 50 producteurs qui se succéderont sur cet espace, qui le feront vivre. Et les retombées, elles sont économiques et médiatiques. Et de toute évidence, notre participation au Salon de l'agriculture a changé le regard des Hauts-Alpins sur l'agriculture des Hautes-Alpes et puis a changé en profondeur notre agriculture, qui est aujourd'hui reconnue comme étant une agriculture assez exceptionnelle, de grande qualité, dans toutes les filières et avec des produits d'une grande qualité. Donc c'est une belle édition 2019 qui s'ouvre. On y va avec beaucoup d'enthousiasme, mais je crois que ce matin, on a touché du doigt ce bel état d'esprit Hauts-Alpins. C'est un des plus grand salon en Europe, hein, c'est quelques 700 000 visiteurs, et il y a des 1000 exposants, il y a 4000 bêtes qui sont dans cette grande ferme parisienne. Chaque agriculteur qui participe au salon d'agriculture prend sur son temps. Il quitte son exploitation, il monte à Paris, donc ils le font avec beaucoup d'ardeur et c'est tout à fait remarquable. Et pour lui, c'est l'occasion de présenter tout son savoir-faire et tout son terroir. C'est également d'avoir l'occasion de créer des contacts, souvent commerciaux, pour trouver des débouchés nouveaux.
Et puis dans l'actualité, avis aux jeunes Tarantino amoureux du département des Hautes-Alpes, avis aux vidéastes amateurs de moins de 25 ans, la mairie de l'Argentière-la-Bessée organise un concours vidéo où vous devrez mettre en valeur la commune avec un thème imposé, l'Argentière insolite, souvenir et avenir. Des règles présentées par Rémi Roux, conseiller municipal délégué à la jeunesse, qui rappelle que le concours n'est pas réservé exclusivement aux habitants de l'Argentière-la-Bessée.
Déjà, on n'est pas obligé d'habiter à l'Argentière, c'est-à-dire que vous êtes de Valouise, de Briançon ou de Savine, vous pouvez participer. Il y a deux catégories de concours, il faut avoir moins de 18 ans, il y aura une catégorie pour les moins de 18 ans, et une autre pour les 18-25 ans. On dit clairement, nous, à l'Argentière, écoutez, si vous faites du vidéomontage, on vous invite à valoriser la commune de l'Argentière sur le thème de l'Argentière insolite, souvenir et avenir. Donc on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui maîtrisent bien le numérique, le montage. Aujourd'hui, c'est très accessible. Donc on leur propose d'utiliser leurs talents pour mettre en valeur la commune de l'Argentière. Et si vous voulez, la gratification pour le film lauréat qui sera choisi, le film gagnant sera diffusé avant toutes les séances du cinéma Loviv en première partie pendant une semaine. Donc je vous laisse imaginer que c'est extrêmement gratifiant de voir, j'en sais rien, son propre court-métrage en première partie de, j'en sais rien, un film de Tarantino par exemple.
Vous avez jusqu'au 31 mai pour présenter un film de 4 minutes, générique compris, dans un format documentaire ou fiction. Retrouvez le règlement sur le site de la ville www.ville-argentière.fr.
Alpe 1 Sport.
Un mot sur les rendez-vous sport de ce week-end. Handball pré-national féminine, c'est un déplacement qui attend les filles de l'Entente Gap-Champsaur. Direction le parquet du Pays de Grasse, 5e au classement. Les Hauts-Alpines, quant à elles, sont 3e, mais jouent des coudes avec le haut du tableau puisqu'elles ne sont qu'à 2 points du leader. Match à 14h ce dimanche. Quant aux hommes gapensés, toujours en pré-national, c'est aussi un déplacement, mais cette fois au SMUC de Marseille. Un match qui s'annonce compliqué pour les hommes de Thémistocle-Agostini. Eux qui sont 8e affrontent les seconds du classement. En hockey sur glace, si en Ligue Magnus, les Rapaces de Gap, qualifiés pour les play-offs, sont en trêve internationale, ça jouera en Division 1, un match de rang qui attend les hommes de Claude Devès, 7e, puisqu'ils accueillent dans leur rentre de René Froger, Nantes, 8e. On rappelle que les play-offs se joueront à partir du 9 mars et que seules les 8 premières équipes sont qualifiées directement pour les quarts de finale. Coup d'envoi ce samedi à 20h30. Sur les pelouses en football, Régional 1, U18, le groupement féminin des Alpes se déplace à Marseille ce samedi à 15h. Dernier match de la phase aller pour les joueuses qui feront le tout pour le tout afin d'arracher la seconde place du classement. En rugby, enfin, en promotion honneur territorial, les premiers, le RC Dinois, se déplacera sur la pelouse du 8e, le rugby club Pierre Fequin.
L'actu des Alpes du Sud continue sur les applications pour smartphones.